Alors ce matin, nous allons continuer à voir la manière dont l'adversaire s'en prend aux chrétiens. Nous avons commencé une petite série sur les stratégies qu'emploie l'adversaire pour empêcher les chrétiens d'avoir une vie victorieuse, pour empêcher les chrétiens de mener à bien les missions que Christ a confiées à son Église, et que parmi ces stratégies, nous voyons la manière rusé hein, de l'adversaire de s'en prendre par divers moyens. Et donc jusqu'à présent, on a pu examiner trois manières, hein, trois stratégies que l'ennemi emploie pour nuire à la vie du chrétien. On a vu que tout d'abord, il cible notre esprit par le mensonge, hein, il est le père du mensonge. On l'a vu avec l'exemple de Ève, comment le diable a menti, a détourné la vérité de la parole de Dieu pour rendre ignorant de la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'avec le mensonge, il cherche à nous éloigner de la volonté de Dieu en perturbant hein, ce que nous croyons, ce que nous pensons au sujet de ce que Dieu attend de nous pour notre vie. Et alors, notre secours hein, dans ce genre de situation-là, eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de vérité. C'est la parole inspirée. C'est pourquoi hein, nous portons tant d'attention à garder la parole de Dieu comme, eh bien, unique référence pour comprendre ce que nous devons croire, pour comprendre qui Dieu est, pour comprendre qui nous sommes. C'est l'autorité de la parole de Dieu, une parole de vérité, n'est-ce pas? Deuxième domaine que nous avions vu, hein, là où l'adversaire va porter ses coups, c'est maintenant de l'ordre physique, c'est dans le corps. Hein, il va s'acharner à faire souffrir les chrétiens, à les rendre impatients justement avec la volonté de Dieu pour leur vie. Mais tout comme l'apôtre Paul, eh bien, la réponse de Dieu pour nous dans ces situations de souffrance physique, c'est ma grâce te suffit. C'est la grâce suffisante de Christ qui nous apporte la victoire lorsque l'adversaire s'en prend à nous physiquement. La troisième manière dont l'adversaire s'en prend aux enfants de Dieu, c'est en cherchant à détourner leur volonté vers la sienne. C'est à les pousser à faire ce que lui a envie que nous fassions plutôt que nous obéissions à la volonté de Dieu. Et la manière dont il va faire cela, et cela on l'avait vu notamment avec le roi David, c'est d'attiser l'orgueil. D'attiser cet orgueil qui est malheureusement encore bien présent dans notre vie. Hein, l'orgueil, c'est ce qui nous pousse à nous mettre nous en premier, à vouloir faire ce que nous, on a envie de faire, malgré les responsabilités que l'on peut avoir envers les autres, malgré les commandements de Dieu. Et donc l'adversaire va attiser les chrétiens avec l'orgueil, et notre seul secours dans ces situations-là, eh bien c'est de nous tourner vers justement l'Esprit de Dieu, de nous soumettre humblement à la direction de l'Esprit-Saint dans notre vie pour vaincre l'orgueil. C'est de suivre cet exemple d'humilité hein, du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui, avant toute chose, voulait accomplir la volonté du Père. Et ça, c'est l'exemple que nous avons dans les Écritures. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe lorsque eh bien, nous ne tirons pas profit hein, de ces situation-là pour vaincre l'ennemi, si on ne tire pas parti de la victoire que Christ nous accorde par sa grâce, si nous négligeons ces ressources spirituelles que Dieu met à notre disposition et que on finit par tomber dans le péché. Qu'est-ce qui se passe quand un chrétien qui a reçu la grâce de Dieu, qui avait compris que le salut en Jésus-Christ, c'est par la foi, c'est pas par nos œuvres, qui a compris qu'il était pécheur et qu'il était condamné à cause de ce péché, et qu'une fois qu'il a placé sa foi en Christ, qu'il a reçu la grâce de Dieu, qu'il a été pardonné de ses péchés, qu'est-ce qui arrive si, ben, de nouveau, il tombe dans le péché? Alors, certaines églises prêchent et avancent qu'à ce moment-là, ils perdent leur salut. Et très sincèrement, c'est quelque chose que je ne vois pas dans les Écritures par rapport au salut en Jésus-Christ, pour plusieurs raisons. Parce qu'on a déjà des passages qui nous assurent hein, de la sécurité éternelle du croyant, parce que c'est en Jésus-Christ que nous sommes sauvés, c'est pas en nous-mêmes. Hein, de la même manière que si nous sommes sauvés par grâce et non par les œuvres, eh bien on n'est pas perdu par nos œuvres. Hein, il faut bien comprendre cela, que le salut en Christ, Et comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, hein, nous le rappelle, c'est un salut qui est parfait, c'est un salut qui dépasse notre compréhension, parce que rien ne peut enlever ce salut en Jésus-Christ. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? On pourrait croire que justement, après avoir entraîné quelqu'un dans le péché, lorsque l'adversaire a réussi à faire chuter un chrétien dans le péché, eh bien, Satan, tout simplement, le laisserait assumer les conséquences de ce péché. Mais ce n'est pas le cas. L'adversaire, un tel un félin, peut-être vous avez déjà vu faire ça avec les chats, mais une fois hein, la proie entre leurs griffes, parfois, on les voit jouer avec leur victime. On les voit relâcher la souris et puis recourir après et l'attraper. Et faire ainsi hein, jusqu'à ce que bon la souris meure d'épuisement ou que le chat lui-même en ait marre et finisse par avaler sa proie. Mais l'adversaire, il agit de la même manière. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a réussi à faire chuter dans le péché un chrétien, il va encore s'acharner sur lui. Il va pas lui laisser de répit. Il va s'amuser avec. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12 et verset 10, il y a ici eh bien, une description de qui l'adversaire est également envers les chrétiens. Il est ici question, au verset 10, je vais le lire, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, et notez bien comment il est appelé, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ce que ce verset nous montre, c'est que l'adversaire ne va pas simplement s'en tenir au fait de faire chuter un chrétien dans le péché, il va en profiter pour accuser. Notez bien jour et nuit. C'est-à-dire qu'il n'a de cesse de faire cela. Comprenons bien que notre adversaire, il est également notre accusateur. Frères et sœurs, nous n'avons pas à nous laisser écraser sous le poids justement de la culpabilité qui va venir de l'adversaire, de celui qui accuse. Il y a un passage dans l'Ancien Testament et on va utiliser ce passage comme source hein, pour notre enseignement ce matin, mais on le trouve dans le prophète Zacharie, Zacharie chapitre 3. Et on trouve dans ce passage de précieuses vérités justement pour nous aider à comprendre comment fonctionne cette stratégie de l'adversaire, de comprendre comment l'adversaire va s'en prendre à nous, mais de voir aussi la manière dont nous pouvons être sortis de cette situation-là. Hein, ici, dans le chapitre 3, on a la description d'une vision du prophète Zacharie. Alors, si vous savez pas, hein, Zacharie, c'était un prophète qui était né à Babylone pendant la période de l'exil, hein, qui a vécu à la même époque hein, que le prophète Agée, que Zorobabel et le souverain sacrificateur Josué hein, dans cette période où, eh bien, le peuple d'Israël a été permis de revenir en Israël, reconstruire la muraille de la ville de Jérusalem, reconstruire le temple, etc. Mais ici, dans ce passage, eh bien, Zacharie a une vision qui concerne le souverain sacrificateur Josué. Mais ce que je veux souligner dans ce passage, c'est surtout le rôle que tient l'adversaire et que on voit aussi l'œuvre de Dieu pour nous aider dans de telles situations. Lisons à partir du verset 1er, on lira jusqu'au verset 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Beaucoup d'informations ici et de leçons à tirer pour nous. Hein, si nous voulons avoir Eh bien, la victoire, lorsque l'adversaire va s'en prendre à nous en nous accusant de toutes sortes de choses, parce que sincèrement, hein, je crois que chaque chrétien, nous sommes conscients de notre péché. Nous sommes conscients lorsque nous avons désobéi à l'Éternel, nous sommes conscients lorsque il y a quelque chose que nous étions supposés faire et nous l'avons pas fait, ce que nous étions supposés dire et nous ne l'avons pas dit, et que on a cette bataille en nous, hein, on sait que j'aurais pas dû faire ça ou j'aurais dû le faire, et on sait pertinemment qu'il faut corriger cela. Et il y a ce sentiment de culpabilité que nous ressentons à ce moment-là lorsque nous avons péché. Mais je crois que la première chose que nous devons prendre conscience, c'est justement cela, c'est que l'ennemi va cibler notre cœur et va cibler justement notre conscience. La scène que Zacharie décrit ici dans cette vision, on le sait, ne se déroule pas sur terre, mais se déroule au ciel. Et la particularité de cette scène, c'est que elle prend l'allure d'un tribunal. Nous avons quelqu'un qui visiblement est coupable, hein, il est revêtu de vêtements sales. Nous avons quelqu'un qui va accuser cette personne, comme un procureur va le faire. Nous avons quelqu'un qui est là pour juger de la situation, mais nous avons aussi quelqu'un qui est là pour défendre celui qui est accusé. Satan va toujours chercher à prouver et à établir notre culpabilité devant l'Éternel, mais aussi dans notre conscience. Satan semble justement ici disposer d'un dossier qui est bien accablant, hein, parce que il est évident que Josué qui porte ses vêtements sales, hein, représente le péché. Alors que le grand prêtre, lui, hein, c'était quelqu'un qui était supposé se présenter avec des habits purs devant l'Éternel, on le voit ici, devant l'Éternel, dans sa présence, avec des vêtements sales. Ouh, ben ça ne va pas, ça. Ça ne va pas du tout. Et cette vision que Zacharie va recevoir à cette époque où Israël, hein, revenait d'exil à cause de son péché, mais aussi à une époque où, malgré cet exil et malgré ce retour en Israël, on voit, malgré cela, quand même dans le peuple d'Israël, des choses qui ne vont pas. Hein, les livres d'Esdras et de Néhémie qui relatent ce retour de l'exil, de la reconstruction des murailles de Jérusalem et du temple, le livre prophétique de Zacharie, Agée et Malachie, hein, qui montrent qu'il y avait tout de même un problème spirituel qui était encore là. On avait des hommes juifs du peuple d'Israël qui répudiaient leurs femmes pour épouser des femmes païennes. C'est terrible. C'est terrible. On avait des personnes, des commerçants, des marchands qui exploitaient leurs frères de la nation d'Israël avec des intérêts excessifs. Mais même ceux parmi ceux qui étaient appelés et reconnus comme serviteurs de l'Éternel, certains d'entre eux profitaient de cette situation, hein, dérobés à Dieu, gardaient pour eux le meilleur des sacrifices. Malgré cette période d'exil et cette grâce de pouvoir revenir dans leur propre terre, de pouvoir reconstruire les murailles et le temple, spirituellement, il y a encore des choses qui ont besoin d'être réglées. Et donc ici, ces vêtements que porte Josué, le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur, ces vêtements sacerdotaux, ils sont souillés, ils sont sales. Ils symbolisent le péché du peuple parce que lui, en tant que souverain sacrificateur, représentait, il venait devant l'Éternel au nom du peuple. Et donc, indéniablement, on comprend que il est pécheur. Et c'est pour ça que Satan va s'emparer de cette situation-là pour accuser, pour insister auprès de Dieu qu'Israël soit jugé. Comprenons ceci, c'est que lorsque nous désobéissons à Dieu, l'adversaire, lui, va en profiter pour nous accabler. Il s'attaque à notre cœur, à notre conscience, il va murmurer à notre oreille quelque chose comme « Ah, bah, tu dis que t'es chrétien et t'as fait ça? Tu dis que tu es chrétien et tu parles comme ça? Tu dis que tu es chrétien et tu as ce genre de pensée-là? Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu es. Ah, si les autres savaient vraiment ce que tu es au-dedans de toi, ils te rejetteraient. L'adversaire est subtil. Il est sans merci. Et sans merci, parce que, à la base, c'est quand même lui qui, dans la plupart des cas, est celui qui va tenter, qui va chercher à faire chuter et qui nous chuchote. Mais vas-y, fais-le, qu'est-ce que tu as à craindre? C'est bon pour toi, tu peux t'en tirer, t'inquiète pas! Et une fois le péché commis, qu'est-ce qu'il fait? Ah, t'es qu'un pécheur. Et il accuse. C'est plus fort que toi, tu n'y arriveras jamais. Tu ne seras jamais un bon chrétien. Et il va s'acharner sur nous, nous écraser sous le poids de la culpabilité, au point de nous amener à penser qu'il n'y a plus d'espoir de pouvoir vivre une vie chrétienne victorieuse. Il n'y a plus d'espoir d'être un bon exemple pour les autres. Il n'y a plus d'espoir pour nous, hein, d'être celui que Dieu nous a appelés à être. Peut-être vous avez déjà perçu cette voix accusatrice en vous. Moi, je peux attester que ça a été le cas pour moi aussi. Hein, on a un adversaire qui est comme un lion qui rôde, qui rugit, qui est prêt à sauter sur sa proie, mais une fois la proie attrapée, il ne va pas la relâcher. Il va la dévorer. Cette voix qui pousse au désespoir, cette voix qui cherche à nous faire croire qu'il n'y a plus aucun recours pour nous, plus aucun secours, plus aucune victoire. Eh bien, dans ces situations-là, déjà le premier réflexe, c'est de ne pas oublier qui l'adversaire est. Il est menteur. Alors oui, vous avez péché, et il va prendre ça comme élément de vérité pour nous faire gober le reste de ce qu'il veut nous faire croire. Hein, c'est sa stratégie, c'est que beaucoup des mensonges, en fait, contiennent une part de vérité mélangée avec du mensonge. Et les gens voient la vérité et gobent le reste du mensonge. L'adversaire agit ainsi. Il va nous montrer, oui, notre péché, mais le reste de ce qu'il va nous dire, ça va être pour nous accabler encore plus, au point de nous écraser. Il est l'accusateur de nos frères. Et il agit ainsi sans relâche. Justement pour qu'on se sente coupable, pour qu'on se sente démuni, pour qu'on se sente désespéré dans notre situation. Alors, je tiens à préciser une chose. Le sentiment de culpabilité n'est pas une mauvaise chose en soi. OK? C'est extrêmement important pour nous de pouvoir distinguer entre les accusations de l'adversaire qui veut nous faire sentir coupable et nous laisser dans cette sentiment de culpabilité, de distinguer cela, eh bien, de l'œuvre de l'Esprit Saint, qui lui cherche à convaincre que oui, tu as péché. Il va nous montrer, oui, tu as péché. Mais la voix de l'Esprit Saint, ça va pas être celle de nous écraser davantage. La voix de l'Esprit Saint, ça va être celle qui nous dit, relève-toi. La même parole que Christ, va et ne pèche plus. Ça, c'est une énorme différence, n'est-ce pas? Et si nous sommes dans cette situation où, après avoir péché, nous nous sentions tellement coupables qu'on se dit, oh, mais moi, j'y peux plus rien, c'est fini, sachez que ça, c'est la voix de l'adversaire. Mais si vous avez cette voix qui vous dit, écoute, Dieu t'aime, Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a sauvé, tu es vivant en Christ, relève-toi, va et ne pèche plus. Ça, c'est la voix de l'Esprit Saint. Quand l'Esprit de Dieu nous convainc, il se sert de la parole de Dieu et il le fait avec amour. Il le fait pour nous ramener à la communion avec le Père. Il ne cherche pas à nous diminuer, il ne cherche pas à nous ratatiner, à nous écraser. Il cherche à nous relever. Dans les Écritures, nous pouvons trouver deux exemples de personnes qui ont péché. Deux personnes qui, ont vécu une situation où ils ont regretté leurs gestes, regretté leurs propos, mais l'un et l'autre ont écouté deux voix différentes et ont eu deux aboutissements totalement opposés. Le premier, c'est Judas. Judas qui a trahi, qui a vendu le Seigneur Jésus-Christ, qui a fini par écouter le diable. Par rapport à ce qu'il venait de faire, on voit une personne qui ne trouve pas de solution, qui dit j'ai vendu le Seigneur, je suis un traître. Et dans son désespoir, qu'est-ce qu'il a fini par faire? Il a fini par aller se pendre. Et la branche sur laquelle se trouvait sa dépouille a fini par céder et son corps a chuté dans un champ. Une fin horrible. Mais il n'est pas le seul à avoir trahi Jésus, n'est-ce pas? Il n'est pas le seul qui a eu cette situation où, par rapport à ce qu'il venait de faire ou ce qu'il avait dit, il avait trahi le Seigneur. Cette autre personne, c'est Pierre. Un Pierre qui, par son reniement, a trahi le Seigneur Jésus. Et il l'a fait 3 fois. Et quand il a pris conscience de ce qu'il venait de faire, lorsqu'il a croisé le regard du Seigneur Jésus, il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement, mais il n'a pas choisi de suivre la même voie que Judas. Il n'a pas écouté cette voix de l'accusateur. Mais il a fini par, eh bien, quelques semaines plus tard, avec le Seigneur Jésus qui va le prendre à part, qui va le relever, qui va le restaurer, n'est-ce pas? Et dans cette conversation au bord de la mer de Galilée, eh bien, Pierre, qui aurait pu se laisser accabler sous le poids de sa culpabilité, eh bien, tout cela a été enlevé. Deux aboutissements différents. Voyez-vous, lorsqu'on écoute les accusations de l'adversaire, qui peuvent être des mensonges, tout comme elles peuvent être vraies, ce que l'on va faire, c'est on va ouvrir la porte au désespoir. On va ouvrir la porte à une sorte de paralysie spirituelle où on finit par penser que notre situation est tellement sans espoir que ce qu'il y a de plus simple, ce qu'il y a de plus évident à nos yeux, c'est d'abandonner. Ça, c'est ce que l'adversaire veut que nous croyions et que nous suivions. Il parvient ainsi à faire croire aux chrétiens que Christ ne peut plus rien pour eux. Il parvient à leur faire croire que leur péché est trop grand pour être pardonné. Lorsque nous avons ce sentiment d'impuissance, de désespoir, vous pouvez être sûr que derrière cela, c'est l'adversaire qui s'en prend à vous. Mais dans ces moments-là, il faut se ressaisir. Et il faut comprendre la raison pour laquelle il s'acharne ainsi sur vous. Parce que la deuxième chose que nous voulons voir par rapport à l'accusateur, c'est que s'il nous accuse, c'est parce qu'il veut notre perte. Il veut notre perte. Il veut pouvoir démontrer au monde que l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ dans notre vie, eh bien, ça ne marche pas. C'est ce qu'il cherche à faire. Parce que non seulement il veut faire en sorte que les chrétiens, eh bien, se perdent dans le sens où, eh bien, ils s'éloignent du Seigneur au point de ne plus rien faire pour le Seigneur, mais veut aussi montrer à ce monde pécheur que finalement, ce que nous prêchons en Jésus-Christ, eh bien, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est son objectif. Il veut nous enfermer dans la culpabilité et causer ainsi notre perte dans le sens où nous ne serons plus capables d'agir, de vivre pour le Seigneur. Pas une perte où nous perdons notre salut, mais nous aurons perdu toutes les occasions de pouvoir servir le Seigneur et de pouvoir faire avancer son royaume. Ça, c'est ce qu'il veut. Et en nous accusant sans cesse, il va ainsi nous pousser à fixer les yeux sur quoi? Sur nous-mêmes. Il détourne notre attention de Christ, de sa grâce, de son amour pour nous. Il veut nous détourner de cette vue-là et nous amener à nous voir nous-mêmes et à nous concentrer sur nous-mêmes plutôt que sur ce que Christ a déjà accompli pour nous. N'oubliez pas que l'évangile de Jésus-Christ, eh bien, proclame un salut qui est parfait. Paul, dans Romains chapitre 8 et verset 1, nous rappelle qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons, par la foi, reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts, que par cela il a la victoire sur le péché, sur la mort, et qu'il est le seul et unique sacrifice parfait pour satisfaire la justice de Dieu. Quand nous avons compris cela, que son salut est parfait et que, comme Paul nous le dit, il n'y a plus de condamnation. C'est-à-dire que Même s'il m'arrive de pécher, la condamnation éternelle n'est plus là. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il écrit également dans sa seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est quoi ? Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Hein ? Ce que nous étions avant le salut et la grâce de Christ, nous ne le sommes plus. L'adversaire veut nous faire croire que nous le sommes encore. Mais Christ nous dit, nous ne le sommes plus. Plus de condamnation. Toutes choses devenues nouvelles. » Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège de l'adversaire, se laissent happer par cette culpabilité malsaine, parce qu'il veut nous maintenir sous ce poids de la culpabilité, où nous finissons par ne plus vivre pour le Seigneur, et ne plus être ce témoignage que nous sommes supposés être. Notre Père Céleste, lui, ce qu'il veut que nous sachions, c'est exactement cela, c'est que tous ceux qui ont placé leur foi en Christ, et en lui seul pour le pardon de leurs péchés, ils sont pardonnés. Pas par leur mérite, pas par leurs actions, mais par la grâce de Dieu, par l'œuvre de Jésus-Christ. L'ennemi, il sait que tant qu'on est sous ce poids de la culpabilité, tant qu'on est accablé par ces pensées de culpabilité, on ne va pas être ceux qui vont aller témoigner de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on se sent ainsi coupable, on se dit « Ah, moi je ne peux pas témoigner, je suis pécheur. Moi je ne peux pas servir le Seigneur ainsi, parce que je suis pécheur. » Et on ne finit par plus témoigner. On ne finit par plus témoigner avec cette force, avec cette joie, avec cette paix que le Seigneur nous communique. Ah, il y a des églises où quelque part, ils cherchent à entretenir ce sentiment de culpabilité, hein, des églises où, ah, si vous sortez pas du culte en étant, hein, sous ce poids de culpabilité par rapport à votre péché, ils se disent que, bah, ça n'a pas été un bon culte. Loin de moi, l'idée même de prêcher de cette manière-là. Okay? C'est pas à moi de convaincre qui que ce soit que, bah, vous êtes pécheur, vous avez fait ceci, vous avez ça, c'est l'Esprit Saint. Mon rôle à moi, c'est de prendre la parole de Dieu et de communiquer cela et d'encourager les uns et les autres à prendre cette vérité que nous voyons et à laisser l'Esprit agir dans votre vie. Et cette parole nous dit ceci. Romains chapitre 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'adversaire veut nous maintenir dans un sentiment de culpabilité. Il veut nous maintenir dans cette idée que nous sommes perdus, que nous n'avons aucune victoire possible dans notre vie. Mais Christ nous dit, vous êtes plus que vainqueur. Vous qui avez accepté ma grâce, placé votre foi en Christ, vous êtes plus que vainqueur. Et c'est pour ça que Paul lui-même pouvait rendre grâce à Dieu parce qu'il faisait toujours triompher en Christ, parce qu'il répand par lui et par tous ses frères et sœurs eh bien l'odeur de sa connaissance. Mais le triomphe est en Christ. La victoire est en Christ. Et elle nous appartient par sa grâce. Alors oui, il peut arriver que il y a ces moments où, par la prédication de la parole, il y a un frère, il y a une sœur en Christ qui peut être saisi d'un sentiment de culpabilité face à son péché. Et certains vont peut-être croire, ah, il m'a ciblé moi. Croyez-moi que ni moi, ni Philippe, nous avons pour objectif de cibler qui que ce soit. Okay? Mais lorsque cela arrive, lorsque, à travers la prédication de la parole de Dieu, vous prenez conscience que là, il vient de montrer quelque chose dans ma vie et ça fait mal. Saisissez cette occasion-là. Une saine prise de conscience spirituelle par rapport au péché, par rapport à la culpabilité que nous pouvons ressentir lorsque la parole de Dieu nous montre ce que nous sommes, lorsque l'Esprit Saint souligne ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. C'est l'occasion pour nous, eh bien, de régler cela. Si la culpabilité que nous pouvons ressentir au cours d'une prédication n'est pas suivi d'une confession, d'une restauration, ça ne va pas venir de l'Esprit de Dieu. Notre objectif d'être fidèle à la parole de Dieu et à l'Église que Dieu a créée, c'est que oui, nous soyons des frères et des sœurs qui nous encourageons, nous nous exhortions à suivre l'exemple de Christ. Lorsque nous voyons un frère, une sœur tomber dans le péché, nous ne soyons pas des accusateurs, mais des releveurs, des restaurateurs. Certains, malheureusement, se plaisent dans une sorte de mélancolie spirituelle. C'est-à-dire qu'ils voient leur péché, ils comprennent la culpabilité qu'ils ont par rapport au péché, mais ils sont tellement focalisés là-dessus qu'ils en oublient la grâce de Christ, qu'ils en oublient l'amour que Christ a manifesté pour nous, pour que nous puissions connaître la joie du salut. Et il y a des chrétiens qui se minent, qui se plombent, parce qu'ils restent dans cette culpabilité. Et ils aiment se sentir coupables. C'est triste à dire. Et il y en a d'autres, par contre, ils ne veulent connaître que la joie et la paix dans leur vie chrétienne, et ils ne prennent jamais au sérieux le danger du péché, ils vont jamais ressentir de culpabilité par rapport à qui ils sont ou ce qu'ils ont fait, ils vont pas chercher à régler le problème du péché, à se repentir, à abandonner les mauvaises pratiques. Et les uns et l'autre ont tort. Paul, il a fait face à des cas dans son ministère, comme des cas comme nous voyons dans l'église de Corinthe. Dans l'église de Corinthe, il y avait un homme qui avait péché, qui refusait de se repentir, qui refusait de se réconcilier avec Dieu et avec l'église. Et Paul va devoir, dans sa première épître, demander à l'église de Corinthe eh bien, d'exercer de la discipline envers ce frère. Et ils l'ont fait. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont fait dans l'excès. Ils sont allés dans l'extrême. Et donc Paul va devoir écrire une seconde épître. Au début, lorsque ce péché a été découvert, les croyants de Corinthe se sont montrés plutôt complaisants. Ils ont refusé d'agir, ils ont refusé d'aller voir ce frère, de le voir et lui dire « Écoute, tu vis dans le péché, tu ne peux pas continuer ainsi, il faut que tu abandonnes ça, repens-toi ». Ils ne l'ont pas fait. Mais après la lettre qu'ils ont reçue de Paul, ils ont réagi, mais ils sont allés bien, bien plus loin qu'ils n'auraient dû. Et ils ont rendu la tâche si difficile à ce frère qui avait péché qu'ils avaient refusé, eux, de lui pardonner. Et donc Paul a dû écrire sa seconde épître et les conseiller. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Et je vais les lire parce qu'il y a des choses à souligner ici. 2 Corinthiens 2, 6 à 11. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Donc Paul lui dit, c'est bon là maintenant, on arrête. En sorte que vous deviez bien plus tôt lui pardonner, et quoi? Et le consoler. Et notez pourquoi. De peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc, frères, à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Alors, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Et là, verset 11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Ce que Paul ici communique, c'est qu'il faut veiller. Veiller sur nous-mêmes, veiller sur les frères et sœurs, mais d'avoir cet amour que quand il y a un péché, d'être pas ceux qui vont culpabiliser. L'Esprit-Saint s'en charge. Mais notez qu'il y a un danger, ce danger de tristesse excessive, où le chrétien finit par rester dans son sentiment de culpabilité au point de se flétrir. Et ce sentiment excessif de culpabilité, de chagrin, c'est ce qui va conduire à la dépression, au désespoir, à l'échec. Et parfois même, bien malheureusement, et ça a été le cas dans le passé, ça l'est encore, où il arrive que des chrétiens, à cause de cela, à cause de ce poids de la culpabilité, parce que, un, ils n'ont pas vu l'œuvre de l'adversaire, ou deux, malheureusement, des frères et des sœurs en Christ ont appuyé ce poids de la culpabilité en eux, et ils n'ont pas vu, ou ne se sont pas rappelés de la vérité de la parole de Dieu concernant leur situation, n'y voient plus d'espoir. Et certains ont tenté, certains y sont parvenus à mettre fin à leur jour. C'est quelque chose qui arrive. Frères et sœurs, il peut nous arriver de tomber dans le piège de cette culpabilité désespérée. Mais comprenez bien que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous restions dans ce piège. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous restions dans ce sentiment de culpabilité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Face aux accusations de l'adversaire, quel est justement notre secours? Et ça, c'est la troisième chose que nous verrons ce matin. C'est, comme nous le voyons ici dans ce passage de Zacharie 3, il y a l'ange de l'Éternel. Jésus-Christ, hein, qui est lui-même notre souverain sacrificateur, qui intercède pour nous, c'est lui notre secours. Tout autant qu'il est vrai que l'adversaire s'acharne sur nous pour nous accuser et nous écraser, il faut que nous comprenions bien, que nous nous rappelions constamment que, bien plus important que cela, il y a la vérité que Jésus-Christ lui-même se tient à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. C'est-à-dire que son rôle pour nous, ça va être de parler en notre faveur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, versets 14 à 15, nous rappelle ceci. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Nous avons un souverain sacrificateur qui est parfait. Parce que il est Dieu et il est homme à la fois. Et il a vécu une vie parfaite, sans péché. Il a porté ce sacrifice lui-même. Et il est sorti victorieux de la mort. Et c'est lui qui va prendre notre cause et la défendre. Et qui va intercéder en notre faveur. Plus loin au chapitre 7 et verset 25, il nous dit que c'est aussi pour ça qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Vous vous rappelez, quand on a vu il y a quelques semaines de cela, la raison pour laquelle c'était bénéfique pour nous que Jésus-Christ retourne au ciel et que nous recevions l'Esprit-Saint. Parce que le ministère de Christ en ce moment, pour chacun d'entre nous, c'est que lorsque nous tombons dans le péché, nous qui lui appartenons, il intercède. Vous avez l'adversaire qui, nuit et jour, accuse. Nuit et jour, nous avons notre Seigneur et Sauveur qui intercède pour nous. Comprenons bien ceci, notre bon berger veille constamment sur son troupeau. Et personne, absolument personne, ne peut nous ravir de sa main. Cette vie éternelle qu'il nous a donnée, comme il le dit dans Jean chapitre 10, il dit, ces brebis, elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Et mon Père qui me les a données, il est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ça, ce sont les vérités auxquelles nous devons nous appuyer, nous ancrer fermement pour faire face aux accusations de l'adversaire. Nous ne sommes jamais seuls. Et puisqu'ici, hein, l'imagerie un peu qui est employée, hein, c'est ce cadre judiciaire, hein, celui d'un tribunal, il faut se rappeler qu'on n'est pas seul au tribunal. On a un avocat. Hein, tous ceux qui comprennent comment fonctionne, hein, le système judiciaire lorsqu'une personne est accusée, hein, et qui doit être jugée par rapport à ce à quoi elle est accusée, eh bien, il y a une personne qui est là pour défendre. Il y a une personne qui est là pour chercher à rétablir la vérité et prouver l'innocence de celui qui est coupable. L'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 2, verset 1er, nous dit ceci à propos de Jésus-Christ. « Dis, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » qui pourrions-nous avoir comme meilleur avocat que Christ? Il est le Dieu éternel. Il connaît nos cœurs. Il connaît ses brebis. Et notre défense donc repose sur notre avocat. Et quel avocat, n'est-ce pas? Mais dans ce passage de Zacharie 3, on voit Dieu qui est le juge, qui siège sur son trône. On voit Josué, hein, le souverain sacrificateur qui se tient devant Dieu, vêtu de vêtements souillés. Et il est coupable. La preuve, elle est là sur lui. Tout le monde peut le voir. Tout le monde le sait. Il est coupable. Et on a Satan qui se tient à la droite de Josué pour s'opposer à lui, pour l'accuser. Mais voilà, l'ange de l'Éternel lui-même. Et ça, j'ai déjà répété à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. La plupart du temps, lorsqu'on a cette expression de l'ange de l'Éternel, il s'agit du Fils. Il s'agit de Christ. Il s'agit de celui qui est la parole incarnée. Celui qui parle. Et donc l'ange de l'Éternel, il est là, il se tient à la droite de Dieu, et c'est lui qui prend la défense de Josué et qui va le restaurer, n'est-ce pas? Et l'une des raisons pour lesquelles justement Jésus donc est retourné au ciel, c'est pour être celui qui va nous défendre, pour être notre avocat, celui qui va être là pour rétablir la vérité concernant ceux qui lui appartiennent. Nous avons un Dieu qui est miséricordieux, plein de grâce. Et lorsqu'il nous a sauvés, hein, au moment où nous avons placé notre foi en Christ, nous sommes repentis de notre péché, il a montré qu'il est un Dieu fidèle, qu'il est un Dieu juste, un Dieu qui pardonne lorsque nous confessons nos péchés. Et Dieu, il est fidèle à lui-même, fidèle à ses promesses. En tant que pécheurs, nous sommes sauvés de la condamnation, de la colère de Dieu, par cette grâce et cette miséricorde manifestée en Christ. En tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous désobéissons, nous sommes pardonnés par la fidélité de Dieu, par sa justice accomplie en Jésus-Christ. Mais notez bien que dans les deux situations, il doit y avoir cette confession. Donc on ne peut pas juste dire « Oh, je suis chrétien, je peux pécher tranquille, sans problème ». Et dire ça à Satan, moi je peux continuer à pécher, hein, je suis sauvé. Non. Si on a bien compris le message de l'évangile et qu'on a bien compris la gravité du péché, ce que le péché représente vis-à-vis de ce Dieu saint que nous adorons, notre attitude c'est on ne veut plus retomber dans le péché. On ne veut plus suivre le péché. Mais bien malheureusement, nous sommes des créatures attachées à certaines habitudes. Et même lorsque nous avons été pardonnés de nos péchés en Christ, que nous avons reçu de lui cette vie éternelle, il peut arriver, comme Jean le dit, si vous péchez, voilà votre avocat. Mais dans toutes ces situations-là, il nous faut confesser nos péchés. Et c'est ce que Jean y rappelle dans cette même épître, en chapitre 1, verset 9, il dit « Si nous confessons nos péchés », notez bien la condition, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. » C'est-à-dire que si, dans ma vie chrétienne, je tombe dans le péché et je ne confesse pas ce péché, que je ne me repente pas, je vais finir par subir des conséquences par rapport à ce péché. La vie éternelle, elle est acquise en Christ, hein, il nous l'a offerte. Mais après notre vie chrétienne, où nous pouvons mener une vie victorieuse, nous pouvons mener une vie avec la grâce de Dieu, nous pouvons perdre ces bénédictions-là. Si nous ne confessons pas notre péché. Est-ce que Dieu, il a fermé les yeux sur la réalité des péchés de Josué? Non. Mais Dieu, on le sait, ne défendra jamais les péchés de ses enfants. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va défendre ses enfants. Et ça, c'est une grosse différence. Il va défendre ses enfants parce que il est Dieu. Parce qu'il est saint. Parce qu'il est juste. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est plein de grâce et de miséricorde. Et surtout parce que l'avocat qui nous défend, c'est celui qui a tout accompli. C'est celui qui a permis que tous mes péchés sont effacés. Tous mes péchés sont pardonnés. Lorsqu'on va écouter les accusations de l'adversaire, on finit par se concentrer sur nous-mêmes, comme je l'ai dit. On finit par voir notre péché comme étant plus grand que la grâce de Christ. plus grand que son amour pour nous. Et c'est ce qui va nous mener à la défaite, au désespoir. Mais lorsque l'on va laisser l'Esprit Saint convaincre notre cœur, notre esprit que oui, nous avons fauté, nous avons chuté, nous avons péché, mais relève-toi, confesse ton péché, Christ a tout accompli. Il n'y a plus de condamnation. Tu n'as pas à être dans le désespoir. La victoire, elle est acquise. À ce moment-là, on se souvient de ce que Christ a accompli, hein, de ce qu'il est mort pour nous, et que Dieu ne va pas nous rejeter, parce que nous appartenons au bon berger, et personne ne peut nous ravir de sa main. Et donc, nous avons un avocat qui intercède en notre faveur, et c'est sur ce sur quoi nous devons nous appuyer pour vaincre cette attaque vicieuse, pernicieuse de l'adversaire, de ses accusations. Est-ce que vous avez peut-être remarqué hein, les étapes de l'expérience ici de Josué dans ce passage de Zacharie? 1. On a l'accusateur qui va exposer le péché de Josué devant le trône de Dieu, qui invoque un Dieu saint pour le juger. Ensuite, nous avons l'Éternel, l'ange de l'Éternel, Christ lui-même, qui demande à l'Éternel de faire quoi? De réprimander Satan. Versets 1 et 2. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Et notez ça, lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi Jérusalem. Ok? Et on sait que, bon, toute cette doctrine concernant l'élection, etc., hein, il y aurait beaucoup de choses à dire et on n'aura pas le temps de voir cela. Mais notre position, hein, c'est que Dieu, dans sa préscience, il sait. Il sait celles et ceux qui accepteraient sa grâce. Il les a choisis. Il les a choisis pour être ses enfants. Il les a choisis pour accomplir de bonnes œuvres préparées d'avance. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un jour, nous accepterions sa grâce. Nous avons un Dieu qui est juste et qui aime et qui laisse à chaque être humain la liberté de choisir. Okay? Mais quand Dieu a choisi la nation d'Israël, quand Dieu a choisi Josué comme souverain sacrificateur, il l'a fait selon sa préscience. Et là, la réponse, c'est que Satan soit réprimé. Pourquoi? Parce que Dieu a sauvé, Dieu a choisi. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que cette réprimande de Satan par Dieu repose sur sa grâce envers son peuple. C'est-à-dire que l'Éternel te réprime. Pourquoi? Parce qu'il a choisi Jérusalem. Hein, ce choix, cette élection, ce salut qui vient de l'Éternel, Satan ne peut rien y faire. Nous qui avons été sauvés par la grâce de Christ, selon le choix de Dieu de nous sauver de cette manière-là, cette grâce qu'il accorde aux pécheurs repentants, cette grâce qui ne dépend d'aucun de nos mérites, eh bien nous devons nous rappeler de cela. Parce que oui, tout comme Josué, nous sommes coupables. C'est indéniable. Nous sommes pécheurs. Nous avons enfreint la loi de Dieu. Nous avons insulté la sainteté de Dieu par nos choix de vie de suivre le péché. Mais notre salut qui ne repose ni sur la loi, ni sur le mérite, qui repose entièrement sur la grâce, sur l'œuvre de Christ, c'est ce à quoi nous devons nous attacher. Et finalement, la troisième chose que nous voyons ici hein, dans ce processus, c'est quoi? C'est la restauration. C'est-à-dire que là où le péché a été visible, eh bien ça a été enlevé et Josué a fini par être revêtu d'une nouvelle robe. Une robe pure, d'un turban pur. Ça, c'est ce que Dieu accomplit pour nous en Jésus-Christ. Le péché dont nous sommes coupables, lorsque nous avons confessé notre péché, invoqué la grâce de Dieu en Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés, purifiés, revêtus de ces vêtements purs. Et de ce fait, comme Paul le rappelle, il n'y a plus de condamnation. L'adversaire ne peut plus rien dire. Lorsque Satan vous accusera, ne l'écoutez pas. Lorsque vous vous êtes piégé dans ce sentiment de culpabilité et que vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire, rappelez-vous que c'est faux. que Christ a tout accompli, que son salut est parfait. Tournez-vous donc vers Christ. Confessez, il vous relèvera. Nous avons un Dieu qui est fidèle et juste. Pour conclure, en tant que pécheurs, oui, nous sommes sauvés de la colère par la grâce et la miséricorde de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous désobéissons, et ça arrive malheureusement, rappelons-nous que lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner. Il est là pour nous restaurer, nous relever. Et ça, c'est la justice de Dieu. Lorsqu'on écoute les accusations de l'adversaire, l'attention va se porter sur nous-mêmes, sur notre faiblesse, sur notre incapacité, et surtout sur le fait qu'il n'y a plus de solution. Lorsqu'on se sent ainsi, rappelons-nous que c'est l'adversaire qui parle. Mais lorsque vous entendez cette voix qui vous dit « Oui, tu as péché, tu n'aurais pas dû faire ça. Repends-toi, confesse ton péché. » Ça, ça vient de l'Esprit de Dieu. De vous rappeler que, oui, on a un avocat qui nous défend jour et nuit, qui intercède pour nous. Et peu importe le péché que nous pouvons commettre, rien n'est plus grand que l'amour et la grâce de Christ. Au final, hein, je sais, vous avez déjà lu ça, mais le seul péché impardonnable dont il est question dans les Écritures, c'est celui de l'incrédulité, c'est celui de rejeter la grâce de Dieu. Mais il n'y a aucun péché qui n'ait été couvert par le sang de Christ. N'écoutez pas donc la voix de l'adversaire lorsqu'il vous dira « C'est fini pour vous, un maudit Dieu et meurt ». N'écoutez pas cette voix. Rappelez-vous du bon berger qui est là pour vous secourir et vous défendre. Proverbe 28, 13, et on finira avec ce verset. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Prions.